Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle année de débat tous les soirs sur RFI. Pour commencer ce soir, un mot. Il a fait la une tout le mois d'août en France, le burkini, maillot de bain intégral, avec cette question lancinante, faut-il l'interdire sur les plages de France ? Un débat qui a créé de nouveaux clivages dans l'Hexagone. Au sein des féministes, certains sont pour, d'autres sont contre. Au sein du gouvernement, où la laïcité n'a manifestement pas le même périmètre pour tous. Au sein de la droite aussi, où tout le week-end, on l'a entendu, les candidats à la primaire se sont écharpés. Non sujet pour les uns, sujet central pour les autres. Sujet tranché en tout cas par le Conseil d'État. C'était la semaine dernière, la plus haute juridiction administrative a suspendu l'arrêt anti-burkini pris par une commune dans les Alpes-Maritimes. Motif, ce burkini ne trouble pas l'ordre public. Une certitude à l'étranger, on regarde la France, l'air un peu moqueur en dénonçant une surenchère politique. Et ensuite quoi ? Va-t-on interdire les nonnes sur les plages ? C'est par exemple interrogé le Daily Telegraph. Alors burkini, la France est-elle tombée sur la tête ? C'est le débat de ce soir. Bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio deux invités. Claire Sercombe, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole d'Oser le féminisme. Notre deuxième invité est Céline Pina, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancienne élue socialiste au Conseil régional d'Île-de-France et vous êtes par ailleurs l'auteur d'un livre qui est paru il y a peu, Silence coupable, aux éditions Kairo. Alors Céline Pina, je voudrais commencer avec vous. Vous êtes favorable à l'interdiction du burkini, vous l'avez dit, notamment dans une tribune. Quels sont vos arguments ?
En fait, j'étais favorable à l'interdiction à Nice, ou à l'arrêté qu'avait pris le maire de Nice, parce que dans le cas de Nice, j'estimais qu'il y avait un contexte qui était extrêmement particulier. Et parce qu'un arrêté municipal ne peut pas être général, il est forcément lié à une situation et limité dans le temps. Et je pensais qu'à Nice, c'était quelque chose d'important. Mais je pense qu'en fait, ce qui est au cœur de toutes ces questions-là, c'est pas tant le burkini en soi, ce n'est que le énième avatar des provocations incessantes de l'islamisme politique qui prend la femme et le contrôle de son corps comme point de test de la résistance de nos sociétés. Le burkini n'est que le énième avatar, on a aussi le voile total, on a eu un certain nombre de crise, que ce soit l'acceptation, la discussion sur l'égalité homme-femme au sein de l'école. Voilà, ça rentre dans
donc
un...
Donc vous y voyez, pour reprendre un terme
c'est une nouvelle
qu'on a entendu,
étape d'une provocation...
Une forme de provocation, une femme aujourd'hui qui porte un maillot intégral sur la plage de Nice, pour vous, c'est une provocation dans le contexte actuel ?
Oui, c'est même complètement déplacé, eu égard à ce qui s'est passé.
Alors, première réaction, peut-être Claire Sercombe, sur ce premier argument qui a été avancé.
Donc, nous, déjà, au sein d'Oser le féminisme, on a une position qui est de dire que effectivement le voile et tous ses dérivés, dirais-je entre guillemets, sont un instrument de la domination masculine qui passe par un discours religieux. Il ne faut pas oublier que les religions, toutes les religions, sont dirigées, les textes fondamentaux ont été rédigés par des hommes et que les sociétés étant patriarcales, on est dans un contexte où il y a une domination des hommes sur les femmes et ça passe aussi par certains types de vêtements. Maintenant, sur les arrêtés anti-burkini, il y en a quand même plus d'une trentaine de villes qui l'ont fait. Certaines villes, on n'en parlait même pas avant. Je savais même pas qu'il y avait des plages dans certaines villes qui ont passé ces arrêtés. Et ce que nous, on voudrait rappeler, c'est que sous ce burkini, derrière ces voiles, il y a des femmes et que ces femmes, elles se trouvent au milieu de tout cet affrontement médiatico-politique et que c'est elles qui en payent le prix fort et qu'il faut aussi comprendre comment on en est arrivé là et ne pas pénaliser ces femmes qui sont prises entre les feux médiatiques et aussi les feux des religieux fondamentalistes, on n'est pas du tout naïf là-dessus, qui viennent remettre en question leurs droits fondamentaux.
Oui, parce que je le soulignais au début de l'émission, hein, ce débat a clivé au sein même des féministes. Alors c'est un groupe qui est très hétéroclite parce que pour certaines d'entre elles, le burkini est avant tout sexiste.
C'est un instrument de la domination masculine. Alors Déjà, il faut savoir que le burkini, pour avoir lu pas mal de choses, est même condamné par certains islamistes fondamentaux qui voient déjà quelque chose de trop permissif à l'encontre des femmes. Ce que ces personnes souhaitent, et on retrouve ça dans tous les fondamentalismes religieux, c'est que les femmes restent enfermées entre quatre murs. C'est ça leur rêve de société. Et donc, c'est pour ça que c'est très compliqué
d'être... C'est-à-dire que vous dénoncez évidemment cette position-là, mais pas le principe de l'interdiction.
On dénonce l'instrumentalisation des femmes qui est faite dans ce débat. L'instrumentalisation par les fondamentalistes religieux qui se servent de ces femmes aussi, quelque part. Il y a aussi une instrumentalisation marketing derrière. Je ne vais pas rentrer dans le débat sur la responsabilité des marques de vêtements qui font leur business comme ça. Il y a aussi une instrumentalisation de la part de ces élus politiques qui d'un coup se découvrent des élans féministes. Alors que si on prend par exemple Lionel Lucas qui s'est beaucoup exprimé sur le sujet, c'est quelqu'un, un député qui a systématiquement voté toutes les lois pour les droits des femmes depuis 2012.
Céline Pina.
En fait, on a deux cas. D'une part, vous avez les gens qui vous disent « mais les femmes sont libres de s'habiller comme elles le veulent ». En fait, le problème, c'est que le burkini, la burqa ou le djilbab, ce ne sont pas des vêtements. Un vêtement, ça se met, ça s'enlève. Moi, je peux mettre une jupe un jour, un jean le lendemain, ça pose pas de problème. Essayez donc de mettre un voile intégral ou un burkini et le lendemain d'aller mettre un bikini ou de vous balader normalement. Vous verrez qu'à ce moment-là, ce signe n'est pas un vêtement, c'est clairement un étendard et un étendard politique.
Mais alors, est-ce que vous mettez le voile sur le même
oui,
même plan,
le voile intégral, ces grands voiles qui ensevelissent toutes les femmes, tout à fait. Pour moi, on est dans la même mouvance, on est dans le même testing. Et ces femmes, est-ce qu'elles ont le choix? D'abord, pour avoir le choix, encore faut-il avoir la possibilité intellectuelle de l'avoir. Et normalement, quand on a le choix, c'est entre deux options qui sont à peu près moralement équivalentes. En fait, derrière le burkini ou derrière ces voiles intégrales, c'est choisissez le vice ou la vertu. C'est soit vous êtes occidentalisé, donc traître à votre identité, soit vous restez dans la tradition. Et à ce moment-là, on met les femmes dans une sorte de, de conflit de loyauté extrêmement important. Et donc, toutes ces femmes qui portent ces vêtements-là, ce sont des leçons de morale ambulantes. Elles diffusent une norme qui n'est pas une norme religieuse, qui est une norme clairement dirigée contre nos valeurs fondamentales.
Est-ce que interdire, cela va régler le problème? Je voulais vous faire réagir sur ce qu'a écrit, par exemple, l'islamologue Olivier Roy. Donc, je vais le citer, c'est un peu long. Pardon, il écrit « Le groupe État islamique ou les talibans n'autoriseraient jamais le burkini. Au contraire, cette tenue est l'exemple même de la gentrification de la pratique religieuse musulmane dans l'espace occidental. Ce maillot de bain couvrant est symboliquement lié à l'ascension sociale de certaines musulmanes. Le porter représente une tentative pour des femmes plutôt jeunes de poser un signe religieux sur une pratique moderne, c'est-à-dire la baignade en famille. Est-ce que interdire ça ne va pas empêcher ces femmes d'aller par exemple se baigner alors qu'elles ne le feraient pas ?
Tant pis pour elles, je vois pas en quoi... diffuser une norme qui fait du corps de la femme quelque chose d'impur, je vois pas en quoi revendiquer une inégalité structurelle entre l'homme et la femme doit être acceptée. Je sais pas s'il faut l'interdire ou si on peut l'interdire légalement, parce que ça peut poser énormément de problèmes. Mais en tout cas, il faut le combattre politiquement et dire très clairement que celles qui portent cela, elles doivent l'assumer, elles savent ce qu'elles font. Quand on dit que tout le corps de la femme n'est qu'un sexe, c'est choquant. Comment voulez-vous vous construire si votre corps est impur? On est incarné, on habite ce corps. On a vu que chez les petites filles ou chez les jeunes femmes, ça posait d'énormes problèmes psychologiques que cette incapacité à accepter son corps. Les droits des femmes sont toujours passés par une libération du corps. Vouloir soutenir qu'une libération du corps, c'est accepter et assumer un corps considéré comme impur, ce n'est pas possible.
Claire Sarcombe, votre réaction à ce qui vient d'être développé?
Déjà, quand j'entends « tant pis pour elle », moi, en tant que féministe, ça me pose un énorme problème puisqu'on ne peut pas raisonner dans ce combat-là en se disant « tant pis pour ces femmes ». Ensuite, sur la question du choix.
Qu'elles ont le choix et qu'elles font un
justement,
choix.
Justement, je voulais revenir sur la question
pour des
choix.
Idiotes non plus.
Attendez. Mais justement, sur la question du choix, dans une société patriarcale, et ça se pose sur plein de thèmes différents, qu'est-ce que le choix d'une femme dans une société où quasiment tout est dicté par les hommes, en fait. On est dans une société patriarcale.
Et donc, si on accepte
juste
ça, on
ce
les
qui se passe à l'Assemblée nationale, où il y a 75% des hommes qui sont des députés. Donc, les lois qui s'appliquent à tout le monde sont faites à 75% par des hommes. Ça, par exemple, pour moi, c'est un problème. On ne peut pas raisonner tant pis pour elles, et on ne peut pas se dire on va interdire et on va masquer le problème. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Pourquoi est-ce que des femmes font le choix, entre guillemets, de mettre ce vêtement, quelles sont les pressions qui s'exercent derrière, et pourquoi est-ce que des filles qui fréquentent les écoles de la République, au même titre que moi j'ai pu les fréquenter, qui ont les mêmes programmes scolaires, etc., un jour en arrivent là? Où est l'échec aussi de la République pour qu'on en arrive là? Je trouve ça un peu facile de dire on va faire des arrêtés et on va combattre frontalement, ok, combattons l'intégrisme religieux et l'obscurantisme, mais si on ne s'attaque pas aux raisons qu'il y a derrière, on n'y arrivera pas. Et en attendant, ce sont des femmes qui sont simplement vêtues d'un voile, comme ce restaurant à Tremblay en France, qui viennent juste acheter de quoi manger, comme je peux le faire tous les week-ends, ou presque, et qui se retrouvent insultées par un restaurateur qui, certes, a présenté ses excuses depuis.
Je crois qu'on a vu...
Parce qu'il y a une libération de la parole raciste derrière.
On a vu une femme se faire agresser parce qu'elle servait pendant le ramadan. Ça n'a pas fait autant de ramdam. On est sur un cas précis. J'allais dire, quand on voit qui instrumentalise ces choses, ce sont les pires islamistes qui sont derrière les scandales organisés. Moi, je me souviens quand même de l'époque des voiles, des filles voilées à l'école. Quand on a enquêté, on s'est rendu compte que toutes ces filles étaient prises en main et que les provocations étaient orchestrées et étaient ensuite alimentées derrière. Je pense qu'on est exactement dans le même cas.
Tous les témoignages ne vont pas dans ce sens-là. Vous avez des témoignages qui expliquent que ce sont des femmes qui avant n'allaient pas à la piscine et qui aujourd'hui peuvent y aller.
Oui,
c'est difficile
de
savoir. On n'a pas eu encore d'enquête sociologique sur le burkini.
Parler des femmes qui, elles, se battent pour ne pas porter le voile, qui sont opprimées, qui se font insulter dans les quartiers. Et aujourd'hui, en soutenant ces femmes qui portent les emblèmes de l'islam le plus rétrograde, le plus violent et le plus obscurantiste, des emblèmes qui nient le droit à la femme d'être égale de l'homme, ces femmes-là, elles font un mal incroyable à celles qui veulent se libérer. Et pour protéger ces femmes-là, on est en train d'enfoncer dans la relégation, on est en train de mettre aux mains des pires religieux, des pires représentants de l'islam, les femmes qui, elles, veulent se libérer. Je trouve le paradoxe assez choquant.
Alors, je crois qu'on a bien compris votre désaccord là-dessus. Je voudrais quand même qu'on en vienne à ce que vous avez commencé à introduire, Claire Sercombe, ce risque qui est brandi par certains d'une forme de stigmatisation. Je voulais juste donner quelques réactions qu'on a eues sur Facebook, sur la page de l'émission. Quand Fanny Agao au Mali parle d'une France islamophobe, est-ce que c'est pas quand même aussi l'un des risques ou l'un des symptômes, ce débat sur le burkini, sur l'atmosphère qui existe aujourd'hui en France, Claire Sercombe?
Moi, je suis très précautionneuse avec le terme islamophobie, puisqu'on sait que c'est aussi un terme qui est souvent invoqué pour empêcher toute critique de la religion. La France étant un pays où la liberté d'expression existe, j'ai le droit de critiquer les religions, et toutes les religions, c'est mon droit. C'est plutôt un risque raciste qu'il y a derrière, c'est-à-dire que si on ne tend pas aussi la main à ces femmes et dire qu'elles font du mal, j'entends tout à fait ce que ces femmes aussi vivent dans les quartiers, et il faut tenir les deux bouts, mais il faut replacer ces femmes-là, toutes ces femmes-là au centre du débat pour parvenir à une décision et cesser de dire que ce sont ces femmes-là qui vont, par leur voile, violenter, entre guillemets, d'autres femmes. Ce sont les pressions qui existent derrière. Et en disant ça, on invisibilise totalement aussi ces pressions qui existent par derrière. Donc il faut tenir les deux bouts. Nous, on est aux côtés des femmes qui se battent pour ne pas mettre le voile, mais on est aussi aux côtés des femmes qui ont juste envie d'être dans la rue, voilée dans les limites définies par la loi, c'est-à-dire le visage découvert.
Céline Pina, il y a eu des mots très durs. Hein. Par exemple, le président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme a dit, dans la foulée de la décision du Conseil d'État, que c'était une leçon pour tous les pyromanes qui jettent de l'huile sur le feu. Alors, qu'est-ce que vous répondez?
Je crois qu'en fait, celles qui jettent de l'huile sur le feu, à partir du moment où on a vécu ce qu'on a vécu, il ne faut quand même pas oublier le contexte de 2015 et de 2016, je pense que ceux qui jettent de l'huile sur le feu sont ceux qui font ces provocations en soutenant cette idéologie islamiste qui a causé tant de morts et qui attaque clairement les valeurs républicaines d'égalité et de liberté. Et je pense que si on était beaucoup plus clair et si on mettait la frontière très claire entre la différence entre islamistes et musulmans, on ne serait pas en train de diffuser des normes qui ne sont pas des normes religieuses. La question, c'est pas le droit de vivre sa religion, bien sûr qu'on l'a. Ce sont des normes intégristes. Et aujourd'hui, ces normes intégristes, elles deviennent normales. Autrement dit, dans la tête, ce que veut faire passer le CCIF, c'est que le voile intégral, c'est que le burkini, c'est ça, être une bonne musulmane. Et ça, ça se répand dans les quartiers. Il faut arrêter d'être aveugle. Il y a des réalités derrière. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que la norme devient la pratique la plus intégriste. Et contre ça, il faut se battre politiquement, parce que sinon, non seulement on abandonne les femmes qui font le pari de la République, mais en plus, en ne portant pas la République assez haut, oui, on crée le racisme. Les trois quarts du temps, vous rendez compte qu'il y a des gens qui craquent parce qu'ils sont à bout, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ne se sentent pas protégés, parce qu'on ne sait pas dire stop à des provocations qui deviennent insupportables.
Alors, un mot de l'importance qu'on a donnée à ce sujet. Certains hommes politiques ont carrément fait leur rentrée sur le thème du burkini. C'est le cas de Nicolas Sarkozy ou de Jean-François Copé. D'autres, au contraire, ont dit leur énervement d'être sollicités sans cesse sur le sujet. Je voudrais qu'on écoute un très court extrait de Cécile Duflot, candidate à la primaire écologie. C'était il y a quelques jours sur BFM TV.
On alimente une espèce d'ogre médiatique qui fabrique des problèmes là où il n'y en a pas, qui crée de la stigmatisation. C'est la quatrième question que vous me posez sur ce sujet, alors que je vous ai répondu et que je vous ai dit aussi à quel point il était essentiel de parler des sujets qui sont des sujets politiques majeurs. L'avenir de notre humanité, c'est un sujet politique majeur.
Claire Sarcombe, donc vous avez une position claire sur le sujet, vous vous êtes exprimée. La place qu'a pris cette question en France vous semble-t-elle disproportionnée, comme le dit Cécile Duflot ?
Cette question, elle s'est insérée dans un certain vide médiatique en plein milieu du mois d'août, où ça a permis d'imprimer des papiers là-dessus et de remplir les chaînes d'information en continu.
Ce sont aussi les hommes politiques et des décisions qui ont été prises.
Et bien sûr, ça s'auto-alimente en fait comme système. Moi, je trouve ça effectivement très problématique que Nicolas Sarkozy ou Jean-François Copé ou d'autres politiques fassent leur rentrée là-dessus sans connecter avec le fond du sujet, c'est-à-dire, ok, on constate qu'il y a une montée dans certaines zones d'un intégrisme religieux, comment on le combat par les politiques de la ville, comment on le combat par le social, qu'est-ce que vous allez mettre sur la table comme proposition politique pour combattre ceci, au lieu de simplement dire, on va faire une loi sur le burkini.
Céline Pina, votre avis, est-ce qu'on est sur une question centrale, selon vous, des débats présidentiels qui s'annoncent ?
Pas le burkini en soi, j'allais dire, le burkini, c'est le symptôme, c'est pas la maladie. Derrière le burkini, ce qui est posé, c'est clairement la question de la possibilité d'attaquer violemment l'égalité entre les hommes et les femmes, et tout simplement la dignité humaine, parce que refuser l'égalité à un groupe humain, quel qu'il soit, est insupportable. Moi, je rappelle quand même qu'on trouve insupportable que, par exemple, un homme refuse de serrer la main à un noir parce qu'il est noir, mais on trouve assez supportable qu'un homme refuse de serrer la main à une femme parce qu'elle est femme. Et qu'aujourd'hui, entre le sexisme et le racisme, c'est la même chose. C'est le refus d'accorder l'égalité à un groupe humain.
Mais alors, comment vous expliquez la sévérité de la presse internationale qui parle quand même de la France comme d'une exception? Aux Pays-Bas, on parle d'un aveu d'échec. La presse allemande parle de politique de stigmatisation, de paranoïa anti-musulmane, de mère aux idées courtes. Au Qatar, on s'interroge sur la contradiction entre la devise française liberté, égalité, fraternité.
Le Qatar n'a rien, il n'a aucune leçon à nous donner, pas plus que les États-Unis dans la manière dont ils gèrent les problèmes raciaux. J'allais dire, il y a en plus beaucoup de sociétés qui sont des sociétés multiculturelles, qui ne donnent pas des droits de façon individuelle, elles donnent des droits à des groupes. Pensez par exemple qu'aux États-Unis, vous pouvez très bien être athée, n'avoir pas le droit d'accéder à des fonctions publiques dans certains États parce que vous êtes athée. On n'est pas du tout dans la même culture. Nous, on a une culture de la nation dans laquelle les droits sont individuels, ils ne dépendent pas de notre appartenance à un groupe, et dans laquelle on supporte très très mal les affichages communautaristes. Et l'affichage communautariste, le communautarisme, il dit à un groupe, vous m'appartenez. Et aujourd'hui, on a des islamistes qui disent aux musulmans, vous nous appartenez, vous devez donc vous comporter comme ça, sinon vous êtes traître à votre identité.
Donc pour vous c'est un débat, un marqueur important qu'il faut avoir dans la...
Après qu'il soit instrumentalisé, quand les choses sont extrêmement importante, elle déclenche des appétits. Vous avez des gens très bien qui tiennent des lignes et qui sont parfaits. Je pense par exemple à Elisabeth Badinter, avec qui je suis en accord total. Et vous avez des gens comme effectivement M. Lucas qui vont essayer de manipuler ça pour servir une clientèle.
Claire Sarcombe, en un mot, c'était l'intitulé de l'émission. Vous avez eu la sensation que cet été, la France était tombée sur la tête avec ce débat, ou vous pensez que c'était quand même un débat qui méritait, en quelques secondes?
Je pense que ce débat est complètement pourri aussi par le contexte ambiant. Moi, j'ai du mal à faire le lien entre des femmes qui sont en burkini et, par exemple, ce qui a pu se passer au Bataclan. Là, je trouve qu'il y a un vrai amalgame qui stigmatise vraiment ces femmes. Le débat mérite d'être posé, mais il est vraiment, pardonnez-moi l'expression, complètement pourri par des considérations clientélistes, électoralistes et racistes.
Je vous remercie en tout cas toutes les deux d'avoir été là pour en débattre. Claire Sercombe, porte-parole d'Oser le féminisme. Céline Pina, auteure de Silence coupable aux éditions Kéro. Merci également à Hélène Avril et à Florence Ponce. On se retrouve demain pour un nouveau débat.